qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Cette semaine, on parle des procès de Nuremberg et de Tokyo en 1945-46. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche à 21h sur France Inter. De novembre 1945 à octobre 1946, pour la première fois de l'histoire, à Nuremberg en Allemagne, des magistrats allaient juger les crimes du Troisième Reich. Complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, mais aussi une nouveauté en droit, crimes contre l'humanité. Un tribunal qui allait poser les bases d'un droit international. Entre-temps, loin de l'Europe, un autre procès allait débuter en avril 1946, le procès dit de Tokyo, mis en place pour juger les grands criminels de guerre japonais. Un procès qu'aujourd'hui on a un peu oublié, un historien américain a parlé d'un trou noir de l'histoire du XXe siècle, de même qu'ont été souvent oubliés les crimes commis par le Japon, responsable de la mort de millions de personnes. Pourquoi les Alliés ont-ils considéré nécessaire de juger les crimes allemands et japonais de la Seconde Guerre mondiale? Et comment ces tribunaux internationaux ont-ils relevé ce défi titanesque, à la fois juridique, moral et politique? On en parle toute cette semaine avec vous, Anna Viviorca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et l'autrice d'un livre, Le procès de Nuremberg, disponible chez Liana Lévy.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich, mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges.
Le 25 novembre 1945 s'ouvre le procès de Nuremberg. Ironie de l'histoire, c'est dans cette ville allemande qu'Hitler célébrait l'anniversaire du parti nazi par des cérémonies grandioses, là où 10 ans plus tôt, il annonça les premières lois antisémites, dites « lois de Nuremberg ». La ville, depuis, a été détruite à 90% par les bombardements alliés. Le palais de justice, c'est avec la prison et le grand hôtel, un des rares bâtiments encore debout. Pour le procès, les Américains ont dû rétablir en hâte l'électricité, l'eau, le téléphone et la circulation des tramways. Le tribunal, ce jour-là, est plein à craquer. Juges venus des 4 pays vainqueurs, États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni et France, avocats, greffiers, interprètes, journalistes du monde entier, spectateurs, et puis, assis dans le box qui leur est réservé, comparaissent 21 des 24 accusés, tous des dignitaires du Troisième Reich. Parmi eux, notamment, Hermann Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop. Dans la salle, le journaliste et écrivain Joseph Kessel les observe. « Les voici, écrit-il, les anciens maîtres insolents et impitoyables, les faux demi-dieux. Les voici tirés de leurs cellules, assis sur leurs bancs, serrés les uns contre les autres, ils ne sont plus que des accusés, tous aussi insignifiants ou vulgaires ou médiocres. » Beaucoup de hauts responsables nazis, morts ou en fuite, sont absents. Le premier d'entre eux, bien sûr, Adolf Hitler, qui s'est suicidé le 30 avril dans son bunker à Berlin. Tout comme Joseph Goebbels le jour suivant. Mort aussi Heinrich Himmler, le chef de la SS, principal responsable de la mise en œuvre de l'extermination des Juifs, qui a avalé une capsule de cyanure après son arrestation le 22 mai. Parmi les accusés absents, Martin Bormann, que l'on croit vivant et en fuite, sera jugé et condamné par contumace.
Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables.
Wilhelm Göring.
Göring le premier. Il amorce un discours.
Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne.
Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable?
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf S.
Nein.
Ribbentrop.
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Keitel.
Keitel.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Von Papen.
Ich bekenne mich keinesfalls schuldig.
L'audience est suspendue. Le procès sera long. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, Ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue.
Arrive l'heure du réquisitoire, prononcé par le procureur général Robert Jackson, juge américain, qui exprime son ambition d'avoir un procès impartial et équitable, sans esprit de vengeance. Le privilège d'inaugurer dans l'histoire le premier procès pour des crimes contre la paix du monde impose de graves responsabilités. Les méfaits que nous avons à condamner et à punir sont d'une telle vilainie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre parce qu'elle ne pourrait continuer à exister si jamais il devait se répéter. Anna Wiewiórka, on entend la solennité de l'ouverture du procès de Nuremberg et du discours du procureur Jackson. Ce procès doit servir pour l'histoire.
Ce procès d'abord doit clore la guerre et il doit servir à ancrer un nouveau droit international. Et la préoccupation des Américains, celle de Jackson, on l'entend déjà dans son discours, puisqu'il dit « c'est le crime contre la paix du monde ». Donc ce qui intéresse au premier chef les Américains, c'est la paix du monde après deux guerres mondiales, deux guerres où ils sont venus au secours de l'Europe.
Vous voulez dire qu'ils ne veulent plus intervenir dans le monde ?
Je ne dirais pas ça. Chacun sait qu'il y a toujours une oscillation aux États-Unis entre intervention et isolationnisme. Mais ils veulent mettre la guerre hors la loi.
Dans le box des accusés, il y a 21 accusés, donc des hauts dignitaires du Troisième Reich. Beaucoup ne sont pas là. Comment ces hommes ont-ils été choisis ? Comment ils ont été arrêtés ?
On a l'impression que les 21 qui sont là devaient être là. Mais en fait, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Un certain nombre d'entre eux s'imposent. Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop, par exemple. Et puis, il y a cette histoire de crime contre la paix. Donc, vous avez 4 militaires. Ils ont été arrêtés principalement par les Américains et par les Britanniques. Or, ça met un peu les Soviétiques malheureux. Donc, on va rajouter ceux qui ont été arrêtés par les Soviétiques, dont un homme un peu insignifiant, enfin qui n'est pas au niveau, si je puis m'exprimer ainsi, qui s'appelle Hans Fritsch, qui est un propagandiste, et il est là parce qu'il a été arrêté par les Soviétiques et pour faire plaisir aux Soviétiques.
Depuis quand les Alliés ont-ils décidé de faire un procès ?
L'idée, elle était déjà présente dans le traité de Versailles, à la fin de la Première Guerre mondiale, où il était prévu de juger Guillaume II. Mais Guillaume II était en fuite, il n'y a pas eu de procès. En fait, la discussion a commencé après l'entrée des Allemands en Union soviétique et la connaissance des crimes abominables qui ont été perpétrés par les nazis, par les Allemands. Et il y a eu des discussions internationales, une première déclaration, la déclaration de St. James, qui donnait dans les buts de guerre de punir ceux qui commettaient des crimes de guerre, et puis ensuite une série de conférences internationales. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les trois grandes puissances, la France ayant rejoint un peu plus tard, ont défini ceux qui devaient être jugés par un tribunal international. C'est-à-dire qu'ils ont fait une distinction entre les grands criminels, majors, ceux qui sont responsables des crimes dans plusieurs pays, et ceux qui ont perpétré leurs crimes dans un seul pays. Et ceux-là doivent être jugés dans le pays où ils ont perpétré leurs crimes.
Les Alliés n'étaient pas tous d'accord avec l'idée d'un procès. Je crois que Churchill était assez
favorable. Oui, de façon étonnante, parce qu'en général, on est tellement gêné par le fait que ce soit Churchill qu'on met ça sur le dos de Staline, qui n'en méritait pas tant. Et Churchill disait, ben voilà, il y a une commission des crimes de guerre qui a une liste de criminels de guerre et des crimes qu'ils ont faits. Il suffit de les reconnaître et on les fusille. Et puis finalement, ça a été l'idée quand même d'un procès qui a triomphé. Mais si les Britanniques souhaitaient une justice plus expéditive, c'est à cause de la façon dont les choses s'étaient passées après la Première Guerre mondiale. Guillaume II, donc, comme je l'ai dit, n'a pas été jugé, mais il y a eu un certain nombre de procès pour crimes de guerre qui sont tenus à Leipzig et qui ont été une parodie de procès.
Merci à Nadia Viorca. Dans le prochain épisode, nous parlerons du déroulement du procès de Nuremberg et de ce qu'il a révélé des crimes du Troisième Reich.